10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent sur Beurre FM tous les week-ends avec l'imam Abdelali Mamoun qui est aujourd'hui est arrivé à la seconde près.
Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu
salihat. Même pas eu le temps de m'inquiéter.
Alhamdulillah. C'est quand même un petit peu.
Un peu.
T'avais le droit.
Bien, Imam Abdelali, ça fait plaisir de vous retrouver. Vous êtes très en forme.
Ben oui, puisque effectivement, je me suis reposé.
Ça se voit.
Bien ressourcé, bien ensoleillé surtout.
Ouais.
Beaucoup de vitamine D. C'est important la vitamine D.
Ah, la stocker, ouais.
Ouais, il faut.
Bon. Donc vous êtes prêt et d'attaque.
Alhamdulillah.
Alors, chaque semaine, vous nous proposez un verbe coranique. Aujourd'hui, de quel verbe s'agit-il, Imam Abdelali ?
Eh bien, nous allons parler de nourriture, parce que bientôt, nous allons être obligés de s'abstenir. Profitons-en un petit peu, puisque de quelques jours qui nous restent avant le début du mois du Ramadan, qui sera le mois d'abord de la nourriture, malheureusement, alors qu'il devrait être au contraire celui de l'abstinence, de manger, de boire excessivement, notamment, comme on peut le constater tous les ans, pendant ce mois béni. Donc, le verbe « akala », c'est le verbe que j'ai choisi aujourd'hui, que l'on retrouve maintes fois et beaucoup de fois dans le Coran, des dizaines de fois, je ne vais pas chercher à savoir combien de fois il est cité, mais effectivement, Allah Azza wa Jal relate ce verbe à maintes reprises, souvent à la forme impérative, c'est-à-dire sous forme d'injonction, et dans lequel il nous ordonne de consommer. Donc consommer bien sûr ou de ne pas consommer. Donc consommer quoi et ne pas consommer quoi. Ça c'est effectivement maintes fois repris dans le Coran. Et donc à partir de là, il y a une manière de se rapprocher de Dieu ou au contraire de susciter la colère de Dieu quant à la manière de consommer plus ou moins bien.
Alors donc, pourquoi Dieu, Imam Abdelali, se mêlerait-il de notre façon de consommer ?
Eh bien, tout simplement parce que Dieu est pureté, et il aime la pureté, il veut que nous soyons purs et que la nourriture que nous consommons doit être pure. Et parce qu'aussi le monde ou les biens qu'il y a sur terre sont à la fois abordables pour tout un chacun et notamment à ceux à qui Dieu, Allah Azza wa Jal, a donné de la puissance, de la force avec laquelle ils vont pouvoir s'accaparer facilement les biens d'autrui, notamment ceux des faibles. Donc Allah Azza wa Jal, pour justement créer cet équilibre, cette harmonie dans la société où personne ne nuirait à personne et ne s'accaparerait en rien des biens d'autrui. Il le dit lui-même, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il prédit l'avenir, il dit un jour, qu'un jour, les femmes et les bergers pourront circuler n'importe où sur terre, sans que le berger ait peur pour ses brebis. C'est-à-dire, même le loup s'abstiendra de s'attaquer aux brebis parce qu'il sait qu'il y a une loi qui lui impose et qui lui interdit de le faire. Et donc à partir de là, tout un chacun respectera le bien d'autrui, personne ne s'accaparera. On le voit aujourd'hui dans beaucoup de pays. Moi je connais, et je parle de pays non musulmans, en même temps je dis heureusement et malheureusement, pour les pays non musulmans, je dis malheureusement, quand vous laissez quelque chose quelque part, un bien, un portefeuille, eh bien vous revenez quelques minutes plus tard, ou même des fois même plusieurs heures plus tard, et vous le retrouvez à sa place, ou vous trouvez une personne qui est venue vous le rapporter. Voilà comment aujourd'hui se comportent beaucoup de gens qui ne se revendiquent pas de l'islam, et qui aujourd'hui sont véritablement imprégnés des valeurs et des préceptes de l'islam. La sagesse est quelque chose qui a été perdu par le croyant et qu'il doit retrouver. Donc Dieu dans le Coran nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ô vous les croyants, mangez de ce qu'il y a sur terre halal, c'est-à-dire ce qui est licite, et tayyib, et bon. Voilà tattabi'u khutuwat ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin, et ne suivez pas les pas du diable car il est pour vous un ennemi évident. Donc dans sourate al-Baqara verset 148. Dans un autre verset Dieu dit: ô vous les croyants, kulu min at-tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ô vous les croyants, mangez de ce qui est bon dans la nourriture et remerciez votre Seigneur, votre Dieu, si vraiment vous prétendez l'adorer. Donc il y a une véritable forme d'adoration quant à la manière de se nourrir. Même des compagnons vont interroger le prophète pour lui demander qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Dieu va répondre à la place du prophète et il va dire à son prophète yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat. Hein, ils t'interrogeront sur ce qui leur a été licite. Dis-leur, il vous a été licite tout ce qui est bon. Donc forcément, ce qui est mauvais est interdit. Hein, il dit dans un autre verset, وَحِرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثِ. Il vous a été proscrit toutes les choses qui sont nuisibles. Donc c'est à l'homme de choisir et de faire le bon choix. Et qu'à partir du moment où on n'a pas besoin d'un verset du Coran pour dire que ça c'est licite ou ça c'est illicite. Il suffit simplement de réfléchir et d'analyser les choses et de comprendre si une chose par expérimentation est nocive ou au contraire est bonne et utile pour le corps humain. Donc il est fondamental de rechercher cette nourriture bonne, cette nourriture licite, de manière à ce que nous soyons dans des corps purs, et de manière à ce que grâce à ce corps pur, eh bien Dieu apprécie notre essence, notre être, notre corps, et ainsi exauce nos prières et nos adorations. Car c'est effectivement l'enjeu, Philippe, de cette nourriture pieuse, bonne et pure, c'est justement d'avoir les prières exaucées. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, a évoqué justement cette question de nourriture pieuse. Il a dit, il y a parmi vous quelqu'un qui va lever les mains au ciel, alors qu'il a un corps sale, des cheveux sales, plein de poussière. Il est imprégné de nourriture qui est impure et sale, etc. Ses vêtements sont sales, tout est impur, tout est illicite en lui-même. Il lève les mains au ciel, il dit, Ô mon Seigneur, exauce mes prières. Et là, le prophète regarde ses compagnons et leur dit, mais comment Dieu peut-il exaucer les prières de cet homme ? Fa'anna yustajabula, dira le prophète à ses compagnons concernant cet homme qui lève les mains au ciel et dit et implore son Seigneur alors qu'il est imprégné d'impureté et de choses illicites. Donc si l'on veut que nos prières soient exaucées, si l'on veut que notre Ramadan, que nos prières, que tout soit exaucé, il est impératif que de manger halal tout au long de l'année, et pas à se dire, voilà, moi je vais m'arrêter seulement 40 jours avant le Ramadan pour que mon Ramadan soit exaucé, ou 40 jours je ne sais quoi, parce que, soi-disant, l'alcool ou la nourriture illicite, eh bien, empêche nos prières d'être exaucées. Certes, il y a un hadith qui va dans ce sens-là, mais il faut pas que ça soit ta seule motivation. Il s'agit pas d'adorer Dieu et commencer à être pur 40 jours avant le début du Ramadan, pour pouvoir commencer à devenir un bon musulman. Le musulman, il est bon musulman 355 jours égyriens de l'année. 365 jours, si on veut.
Oui. Hein,
grégorien, hein, puisqu'on est effectivement dans une société où c'est le calendrier grégorien qui prime et qui est plus important, qui est plus pris en compte. Même chez les musulmans, attention, moi ça me fait rire quand on voit des musulmans qui, c'est le calendrier musulman. Ouais, mais alors bon, alors le 16 avril où tu commémores la journée du savoir et la mort de Ibn Badis, pourquoi tu l'évoques pas selon le calendrier égyrien? Ça, je parle pour les Algériens. Mais il y a d'autres pays où c'est la même chose, où pratiquement dans tous les pays du monde, le calendrier grégorien est aujourd'hui supérieur et pris plus en compte que les autres calendriers, même si nous, pour nos adorations, ça restera et ça restera le calendrier égyrien, et qu'il n'est pas question d'adapter ou de calquer. Il y a une fois une personne qui m'a appelé du sud de la France, m'a dit, mais pourquoi on ferait pas comme les juifs, on décalerait tous les trois ans un mois du calendrier égyrien, de manière à ce que notre calendrier égyrien suive les saisons. En parlant de Rabi al-Awwal, par exemple, Rabi al-Awwal qui veut dire printemps, eh bien, pour que le Shahr Rabi al-Awwal reste pendant le printemps, et qu'il ne devienne pas un mois d'été, ou un mois d'automne, ou un mois d'hiver. Non, bien sûr que non. Le prophète l'aurait fait auparavant si c'était nécessaire. Et donc, il faut effectivement qu'il y ait cette rotation, ce changement d'époque, pour que nous puissions vivre toutes les adorations pendant toutes les saisons. C'est-à-dire qu'on puisse vivre le Ramadan en été, en printemps, en hiver, et ainsi de suite. Et que voilà,
ça tourne.
Il faut que ça tourne.
Voilà,
il faut que ça tourne.
C'est le principe. Manger ce qui est bon et licite, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, Imam Abdelali?
Eh bien, il y a aussi d'autres choses importantes à ne pas commettre comme acte illicite. C'est par exemple le fait de consommer des choses qui relèvent des péchés capitaux, tels que l'usure. consommer l'usure, c'est-à-dire qu'une personne, un capitaliste, quelqu'un qui a de l'argent, va abuser de sa puissance financière pour dépouiller les pauvres, pour dépouiller les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, en leur prêtant de l'argent bien sûr et en exigeant en contrepartie des intérêts, des faramineux. Un Dieu dit dans le Coran, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba adhafa mudha'afa, ou vous les croyants, ne consommez pas l'usure par multiplication et multiplication. Adhafan mudha'afa, c'est une manière d'accentuer le fait que l'usure est quelque chose d'extrêmement grave, parce que souvent elle aboutit à des sommes qui étouffent les individus, les consommateurs, mais même toute l'économie elle-même fait l'objet de cet étouffement. On l'a bien vu lors de la crise de 2008 aux États-Unis avec le subprime, etc. On a bien vu ce que ça a pu faire comme dégâts que de consommer l'usure. Mais aussi d'autres formes de choses qu'il est interdit de consommer, telles que par exemple les biens de personnes vulnérables, comme les orphelins. Le prophète, quand il évoque les péchés capitaux, il dit « Ouais, klima l'iliatim hein, !» S'accaparer le bien de l'orphelin. Pourquoi ? Parce qu'un enfant orphelin en bas âge ou quand il est petit n'a pas la conscience de ce qu'il possède quand il perd ses parents. Parce que si l'orphelin, c'est que ses parents qui le protégeaient sont morts, et que les adultes, la société qui entoure cet enfant, eh bien, peut très bien décider de s'accaparer ses biens et de le laisser mourir dans l'état dans lequel il est. Il est donc important que la société protège les orphelins, protège les personnes vulnérables, les retraités, les personnes qui ont les simples d'esprit, les handicapés mentaux, les gens en prison, les gens qui sont malades dans les hôpitaux, tous ceux qui ont une vulnérabilité, notamment au niveau de leurs biens, eh bien, il faut protéger leurs biens, et que toute personne qui s'accaparerait de leurs biens devrait donc faire l'objet d'une poursuite judiciaire pour escroquerie, pour abus de faiblesse, etc. Tous les textes de loi qui existent aujourd'hui en France, mais qui sont effectivement confirmés dans le Coran et dans la Sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc aklimal al-yatim, le prophète l'a évoqué comme l'un des sept péchés capitaux, s'accaparer le bien de l'orphelin. Un orphelin qui est petit, qui est en bas âge, et toi t'es là, tu as son argent, tu peux faire ce que tu veux, soit lui voler son argent, ou soit lui dire, non attends, je vais la garder en dépôt jusqu'à que tu sois majeur, soit que tu sois en âge de réfléchir et de pouvoir gérer toi-même ton argent, et à ce moment-là, je te restituerai ton argent. C'est ce que, bien sûr, est demandé en islam, et plein d'autres choses qui relèvent de ce qui est licite et illicite en matière de biens matériaux, et donc Allah Azza wa Jal, par exemple, nous interdit de consommer ce qui nous est pas légitime. Vous les croyants, ne consommez pas l'argent les uns les autres de manière injuste et de manière fausse, en faisant l'objet, en utilisant le faux usage de faux. Par exemple, les faussaires qui utilisent la fausse monnaie, ou des personnes qui utiliseraient des faux documents, ou qui sont dans une démarche d'escroquerie, eh bien, Allah Azza wa Jal le condamne fermement dans le Coran, et donc, on est invité à consommer et à s'accaparer le bien que de manière licite, et de manger de ce qui est licite, car Allah Azza wa Jal dans le Coran nous dit, car chacun d'entre vous sera interrogé sur ce qui lui a été donné, ce qu'il a pu prendre des richesses de ce bas monde le jour de l'au-delà. Un compagnon, je crois que c'est Ali ibn Abi Talib, qui disait, bien cette dunya, ô combien est détestable cette vie du bas monde, et ses richesses et ses biens matériaux, hein. Sur ce qui est licite, tu seras interrogé, et sur ce qui est illicite, tu en seras châtié. Donc combien il est grave de trop chercher à s'accaparer de biens sans filtrer le bien du mal, de filtrer ce qui est licite de ce qui est illicite. Donc il est important pour un croyant et pour un bon musulman que de réfléchir à cela et de ne pas être dans cette cupidité qui causera sa perdition.
Bien, on verra tout à l'heure quelles sont les règles de bienséance, Imam Abdelali. Et vous, oui.
Oui, je voulais citer un exemple, si tu le veux bien, Philippe.
On a un exemple. Temps, allez-y.
Ouais, une dernière qui est rapportée par Al-Bukhari, hein, donc un hadith authentique. Un jour, Abu Bakr Siddiq était invité par un compagnon pour manger chez lui. pour montrer, regardez comment ces hommes qui avaient compris le message mieux que tout un chacun, comment ils appliquaient avec rigueur et avec rigorisme le fait de ne consommer que de ce qui est licite. Un jour, donc, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, est invité chez un ami à lui. Il mange la nourriture qui lui est proposée. Et ensuite, le compagnon lui dit, sais-tu d'où je tiens cette nourriture que tu viens de manger à Abu Bakr? Il a dit, non, je pense que, tu l'as gagnée, légalement. Il a dit, j'ai fait croire que j'étais un voyant. Donc je pratiquais la sorcellerie et que j'avais des capacités surnaturelles, etc. Et j'ai escroqué des gens. Et donc ils m'ont récompensé, ils m'ont donné, ils m'ont rétribué. Je leur faisais croire que vous allez obtenir telle et telle chose. Et eux, ils étaient tellement contents qu'ils m'ont rétribué ce que tu viens de manger, Abu Bakr. Et là, Abu Bakr Siddiq est écœuré d'entendre cela. Il met son doigt dans la bouche. Écoute bien, Philippe. Il va mettre son doigt au fond de la gorge et il va vomir tout ce qu'il a ingurgité, tout ce qu'il a mangé, il va le recracher, il va le vomir jusqu'à la dernière bouchée. Et il va dire quoi à la fin? Allahumma inni abra'u ilayka mimma khalat al-am'a. Oh mon Dieu, je demande que tu m'innocentes de ce qui est malgré tout resté à l'intérieur de mon corps et qui est resté accroché à mes entrailles et que je ne peux pas vider par ce geste que je viens de faire, notamment de me faire vomir. Donc voilà comment les compagnons étaient rigoristes en matière de quand ils étaient à la recherche de ce qui est halal, car effectivement, c'est le seul moyen d'obtenir la satisfaction divine et d'être dans nos prières. Wallahu a'lam.
Bien, tout à l'heure, vous pourrez poser vos questions à l'imam Abdelali au standard 01 53 48 3000 sur le ramadan. Vous nous présenterez également un personnage, l'imam Abdelali. Allez, j'en ai un indice, c'est le transporteur Alan.
Oui, transporteur qui utilise ce qu'on appelle en arabe le hammar. Le hammar, c'est quelqu'un qui aidait les gens ou qui moyennant en finance, transportait les biens comme aujourd'hui
c'est un chauffeur-livreur.
Chauffeur-livreur, voilà. Exactement.
Sauf qu'il y avait des ânes à l'époque.
C'était un homme ânes. Le hammar, c'était le chauffeur-livreur du Moyen-Âge. Et en l'occurrence, cet homme-là était pratiquait ce métier-là.
Bon, et vous nous le présentez dans un instant.
L'islam au présent revient dans un instant. Heures, 11h, l'islam au présent sur Beurre FM.
Alors, je vous rappelle que pour le mois du ramadan, nous recherchons des enfants pour venir faire des chroniques et venir à la radio enregistrer les histoires de prophètes. Donc si alors vous avez jusqu'à 13 ans et que vous sentez l'envie de faire de la radio, de faire une chronique pendant le mois du ramadan, c'est très simple, vous appelez l'imam Abdelali Mamoun
au 06 29 25 35 00. Je répète le 06 29 25 35 00. Donc vous serez invité à venir sur le plateau de Beurre FM dans le nos studios d'enregistrement pour enregistrer une chronique sur un prophète, des différents prophètes qui sont notamment cités dans le Coran. Et bien sûr, cet enregistrement sera diffusé courant Ramadan pendant une journée entière, en boucle, plusieurs fois dans la journée probablement. Et votre enfant donc sera écouté par des centaines de milliers d'auditeurs et d'auditrices et donc deviendra, Inch'Allah, la star de Beurre FM. Donc n'hésitez pas à nous appeler pour... Donc auditionnez votre enfant, et bien sûr ceux qui viennent sont sûrs d'être enregistrés. Il s'agit pas de sélectionner, il s'agit de vraiment d'accepter tous ceux qui acceptent de venir à la radio. Et il n'est pas question de renvoyer un enfant bredouille en disant non tu. Bon, bien sûr, le minimum c'est qu'il sache au moins lire correctement en français
Et que ça l'intéresse aussi. Hein,
ça l'intéresse,
et qu'il a envie
sûr.
De faire.
Voilà.
Alors, Imam Abdelali, c'est vous qui allez raconter une histoire aujourd'hui. Vous allez mettre justement, vous allez tester vos talents de conteur et vous allez donc nous parler de celui qu'on appelait le transporteur à l'âne.
Oui, le hammar, puisque le mot himar veut dire l'âne. Et le hammar, c'est celui qui avait un âne et qui l'utilisait pour transporter les marchandises. Donc c'était un petit peu le fameux chauffeur-livreur du Moyen-Âge qui s'appelle Mohammed ibn Abi Amr, qui devint le régent victorieux. Voilà, on l'appelle Al-Hajib al-Mansour. Il est même aujourd'hui considéré comme une des personnalités charismatiques de l'histoire de l'Andalousie et de l'Espagne. Et qui donc, cet homme a vécu à la fin du Xe siècle et qu'il a donc de ce fait réussi à devenir le régent pendant une vingtaine d'années. Philippe, c'est pas rien. Hein. Une vingtaine d'années, il a régné sur toute l'Andalousie. À l'époque, au début du règne des musulmans, l'Andalousie n'est pas divisée en roitelets, comme ça se passera bien plus tard lors de la perte de ce territoire musulman par les musulmans. Au début, toute l'Andalousie n'est dirigée que par un seul et même gouverneur qui dirige le pays. Alors c'était soit Séville, soit c'était à Cordoue, soit c'était à Grenade, selon les différentes dynasties. On va pas revenir là-dessus sur l'histoire de la civilisation andalouse. Donc ce Hammar, qui est donc ce chauffeur-livreur, était avec ses deux copains pauvres, vivait dans une petite cabane toute pourrie et excusez-moi l'expression, donc c'est important de préciser que voilà quoi, il vivait dans une situation extrêmement...
C'était pas la cabane au fond du jardin.
Non, pas du tout. Non, c'est pas celle-là. Comment s'appelle Kagadou.
Mais non, non, c'est Francis Cabrel.
Ouais, c'est ça. Alors, donc, cet homme-là, qui discutait avec ses copains, qui était donc pauvre comme lui, posa la question, quel serait ton plus grand vœu? L'un d'entre eux dit, moi j'aimerais bien avoir plusieurs ânes au lieu d'en avoir qu'un seul pour gagner encore plus d'argent et pouvoir encore faire plus de chiffres. L'autre dit, et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Il dit, moi, j'aimerais pouvoir contrôler tout le marché des animaux au marché, dans le marché, pour pouvoir faire beaucoup d'argent et vendre et pouvoir faire du commerce de bestiaux et d'animaux pour transporter. Donc, les ânes, les chevaux, etc. Et il dit, et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a au Mohammed ibn Abi Amr, donc de son nom, il a dit, moi, je veux devenir calife. Il dit, quoi, devenir calife? Mais t'es un malade, t'es fou, toi. Qu'est-ce que tu racontes, devenir calife? Mais c'est insensé. Fais un vœu quand même, qui est raisonnable, qui est imaginable. Mais pas ce que...
Ça, c'est pas possible.
Et là, il a dit, mais vas-y, supposons que je suis calife. Qu'est-ce que tu voudrais que je te donne? À l'un d'entre eux, il dit. Il dit, j'aimerais bien que tu me donnes un palais. Il dit, et quoi? Il dit, je veux 100 000 dinars. Il a dit, quoi? Il dit, je voudrais 4 femmes. Il a dit, quoi? Il dit, non, ça y est, c'est bon, je veux rien d'autre, ça suffit. Il dit, d'accord. Il dit, et toi, qu'est-ce que tu voudrais si je deviens calife? Il a dit, moi, je voudrais que tu me mets sur un âne, à l'envers, c'est-à-dire que tu me mets à l'envers de l'âne, que tu m'attaches et que tu me couvres de cendres et que tu fasses en sorte que je sois la risée de tous les gens du village et que je marche dans les rues sur cet âne-là, et à l'envers bien sûr, et que tous les gens m'insultent de tous les noms d'imposteurs, de menteurs, etc. Et il a dit, écoute, on verra bien, hein, que nous dira l'avenir. Effectivement, cet homme décida de vendre son âne et d'acheter des armes avec. Et quand il se pointa, il s'entraîna d'abord avec ses armes et il arriva devant le commissariat de police. À l'époque, il y avait donc Marquez Shorta, et il lui dit, voilà, moi j'ai des capacités, je voudrais devenir policier. Donc on essaya de voir quelles étaient ses capacités physiques. Et effectivement, ses capacités séduisaient le commissaire, et donc il accepta de l'embaucher. Et alors il devient policier. Petit à petit, il commença à prendre du grade parce qu'il était très intelligent. Il commençait à devenir, inspecteur. Ensuite, devient lieutenant de police. Ensuite, il devient capitaine de police. Ensuite, il prit la place du commissaire. Enfin, il devint le chef de la police de tout le royaume d'Andalousie. De tout le royaume. Et à partir de là, l'ancien calife des musulmans, Omeyyade, mourut et légua son pouvoir et son royaume à un enfant de 10 ans. Mais cet enfant de 10 ans ne pouvait pas diriger le pays. Donc, ils décidèrent, les Bani Umayya, chacun voulait, les autres, les cousins, les oncles, chacun voulant prendre le pouvoir, pour ne pas le prendre, qu'est-ce qu'ils décidèrent? Ils dirent, on va confier la tâche de la régence du pays à 3 personnages qui ne sont pas membres de la famille Omeyyade. Alors, c'est qui? On dit, on va désigner le chef des armées, le chef du gouvernement, donc le premier ministre, l'équivalent du premier ministre, le vizir, le fameux vizir, et le chef de la police. Sauf que les deux premiers, et donc, ah oui, le chef de la police, c'était bien sûr Mohammed ibn Amir Amr. Il faisait partie des 3 gérants. Sauf que en tant que chef de la police, il était aussi garant du respect de la loi. Ces deux hommes qui étaient avec lui étaient des escrocs, étaient des gens qui pratiquaient le trafic d'influence, trafic de pouvoir, et s'accaparaient notamment des biens, etc. Et il en profita pour les mettre en prison. purement et simplement. Il dit voilà, moi je suis le chef de la police, je suis là pour faire respecter la loi, vous ne respectez pas la loi, allez hop en prison. Donc il se retrouva seul à gérer le pays. Et il ordonna même à ce que l'enfant, le jeune qui était, soit confiné dans le palais et ne sorte jamais, que seulement sur sa, ce qu'on appelle sa, avec son autorisation. Et c'est ainsi qu'il géra le pays pendant une vingtaine d'années. Il fit beaucoup de choses bien, notamment il fit la promotion du savoir, etc. Il encouragea la connaissance, notamment tous les scientifiques qui ont découvert, beaucoup de découvertes l'ont réussi, l'ont découvert pendant son règne. Et donc c'était un homme bon, c'était un homme de moderne qui a contribué à la modernisation de l'Europe et notamment de l'Andalousie à l'époque. Et donc à partir de là, il convoqua ses deux amis. Hein, c'était pas terminé. C'est vrai, les deux premiers amis à qui il avait promis des choses s'il devenait calife. Et ils se pointèrent devant lui, bien sûr. Et l'un d'entre eux lui dit, qu'est-ce que tu m'avais demandé, toi, au fait? Il a dit, bah, je t'avais demandé un palais. Bah, il dit, tiens, voilà, le palais de tel endroit, il est pour toi. Alcassar, je sais plus quoi, là. Il est pour toi. Il a dit, quoi d'autre? Il m'a dit, 100 000 dinars. Donnez-lui 100 000 dinars. On lui donna 100 000 dinars. Elle a dit, quoi d'autre? Il dit, 4 femmes. Elle a dit, choisis parmi dans mon harem 4 femmes esclaves et prends-les et marie-toi avec elles. Elles sont libres et tu pourras te marier avec elles. Effectivement, il prit son tribut et reparta, heureux du cadeau que le calife lui avait offert et que, parce qu'il lui avait promis. Et il a dit, et toi? Elle a dit, non, pardonne-moi, pardonne-moi. Elle a dit, non, dis-moi, qu'est-ce que tu m'avais demandé? Et il a dit, vas-y, s'il te plaît, fini, c'est-à-dire et grâce en moi. Il a dit, non, tu vas me dire qu'est-ce que tu m'avais demandé. Il a dit, je t'avais dit que tu me mettrais sur un âne à l'envers, tu m'attacherais sur le dos et tu me couvrerais de cendres noires et que tu me ferais promener et que je serais la risée de toute la population. Et il a dit, bah, qu'il en soit ainsi, mettez-le sur l'âne, attachez-le, mettez-le à l'envers, c'est-à-dire en position avec la queue devant lui. Et il traversa toute la ville, il fit le tour de la ville avec de la cendre sur le visage, tout noir de charbon, et tout le monde se moquait de lui, riait de lui, criait sur lui. Et c'est une vraie histoire, Philippe, hein, c'est pas une histoire qui s'est vraiment passée. Al-Mansour, le fameux Al-Mansour, le régent Al-Hajib Al-Mansour, est une grande personnalité charismatique de la civilisation musulmane andalouse et qui a effectivement fait beaucoup de choses pour l'humanité, et notamment à travers son soutien aux savants et aux découvreurs qui ont, grâce à lui, par exemple, découvert l'astrolabe, ces instruments de navigation qui ont permis plus tard à Christophe Colomb de par exemple, de découvrir l'Amérique, hein, ça n'est pas rien. Voilà, Philippe, l'histoire que.
Mais est-ce qu'on sait pourquoi il a voulu faire ça?
De quoi?
Mais se faire mettre sur l'âne.
Parce que c'est l'autre qui dit que tu ne pourras jamais y arriver. Ben c'est là qu'il croyait que son ambition était inimaginable. Donc c'est une leçon de morale que nous fait là ici Al-Hajj Mansour. C'est-à-dire quand on a de l'ambition, on peut arriver. Un manjet de wajet ou un mansar ala darbi wasal nous dit le proverbe que quand quelqu'un a une ambition, eh bien qu'il est sérieux, il peut y arriver. N'importe qui peut y arriver.
Quand on veut, on peut.
On peut, mais ça c'est plutôt Abdelkrim, notre coach.
C'est Napoléon Bonaparte.
Non, mais d'abord Abdelkrim.
Quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit.
Voilà, eh bien.
C'est Napoléon Bonaparte qui
dit ça. En tout cas, bon, pourquoi pas, c'est une sagesse que même si elle vient de Napoléon, effectivement, ce petit monsieur de Corse est devenu l'empereur du plus grand empire du monde, ça n'est pas rien, effectivement, puisqu'il est arrivé jusqu'aux portes de Moscou, hein, c'est pas rien, hein, son royaume son empire, hein, l'empire de Napoléon. Et donc, effectivement, quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit. Ça, c'est effectivement quelque chose de fort. Et là, on le voit aussi à travers l'ambition de ce Mohammed ibn Amr Mohammed ibn Abi Amr al-Hajib al-Mansour, qui a régné sur toute l'Andalousie pendant plus d'une vingtaine d'années.
Bien, Imam Abdelali, dans un instant, vous répondrez aux questions des auditeurs et aux questions qui concernent le Ramadan. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Dans un instant. Heures, 11h, l'islam au présent sur Beurre FM.
Voilà, vous le savez, vous pouvez interroger l'imam Abdelali Mamoun qui répond à toutes vos questions. On parle beaucoup du Ramadan aujourd'hui, c'est dans quelques jours, moins d'un mois maintenant, hein, le Ramadan. 01 53 48 3000 pour poser vos questions en direct sur le standard, de l'islam au présent à l'imam Abdelali Mamoun. Et c'est Mohamed qui nous appelle d'Ivry. Bienvenue Mohamed.
Bonjour, salam alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaban akhi.
Je vous appelle par rapport au Ramadan dernier. Pendant la canicule, je travaillais, j'étais sur l'escabeau et tout. Et au milieu de journée, vers 13h à peu près. Et donc j'ai commencé à voir, donc j'étais déshydraté, je commençais à avoir des vertiges et tout. Et du coup, mon cœur, il a commencé à battre très fort et tout. Donc
avoir des palpitations.
Je n'ai pas pu, donc j'ai bu de l'eau.
Mmh. Tu as bien fait. Ouais, mais tu n'as pas fait que ce qu'il fallait. Ah. Il fallait manger et boire à volonté. Quand tu décides de rompre pendant le Ramadan, on rompt totalement. On ne fait pas les choses à moitié. Moi, quand des gens m'appellent pour me dire, Chir, moi j'ai pris que un cachet et un verre d'eau pour pouvoir avaler le cachet, et j'ai tenu toute la journée. Mais je dis, mais ça sert à rien ce que vous avez fait. Si vous avez fait ça en pleine journée, en sachant que c'est le Ramadan, donc sans avoir oublié que c'est le Ramadan, votre Ramadan est invalidé. Donc ça ne sert à rien de faire les choses à moitié. Vous auriez dû tout simplement boire et manger, mais toute la journée, pas simplement pour calmer votre soif ou pour calmer vos palpitations ou votre problème de vertige. Non.
Parfois, il faut y avoir un sentiment de culpabilité qui fait que...
Je voudrais les déculpabiliser, les personnes qui, dans la journée, ont des problèmes de santé liés à une journée trop difficile parce qu'ils ont un travail trop pénible. Eh bien, ouais. Ils cassent le jeûne, mais ils le cassent bien. C'est pas la peine de faire les choses à moitié. Casser, et puis... قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Celui qui est malade... Donc, soit avant de commencer le jeûne, ou soit pendant la journée du jeûne, eh bien, il a la possibilité d'ajourner son jeûne à une date ultérieure. Le Coran est très facilitateur. Il le dit dans la suite du verset. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Il veut pour vous la facilité et en aucun cas la difficulté, nous dit Allah. Dans le verset même où il parle de cette dérogation pour les gens malades ou qui sont atteints de problèmes de maladie ou de faiblesse du corps pendant la journée du Ramadan. Mais bien sûr, il faut que ça soit véritablement ressenti et justifié. On n'est pas dans la supposition. Et supposons que je sois assoiffé. Ben non, tu jeûnes. Et quand effectivement ton corps se plaint et commence à réagir anormalement, là effectivement, tu casses ton jeûne. Mais quand tu le casses, casse-le bien. Pas la peine de faire les choses à moitié. Boire, je remets ma, après je continue le ramadan, ça sert à rien. Il a je remarre, halil a shrabt qara kamla. Hein, que tu bois une gorgée ou la bouteille entière, c'est la même chose. Donc arrêtez de faire les choses à moitié. Celui qui décide de ne pas jeûner, qu'il ne jeûne pas du tout. On ne fait pas les choses à moitié en disant moi je vais jeûner un petit peu ou je vais jeûner un peu beaucoup passionnément. Non, ça n'existe pas ça. Ouais. Ça existe que quand on parle d'amour, un peu beaucoup passionnément. Ça c'est par là. Le ramadan, ça se fait pas un peu beaucoup passionnément. C'est oui ou non. On le fait ou on le fait pas. Si on le fait, on le fait bien, ou soit on le fait pas. Voilà.
Sachant que je ne l'ai pas rendu encore.
Ah oui, il faut le rendre par contre.
Ah oui.
Ah ben bah oui, il fallait le faire pendant l'hiver. Pourquoi tu ne l'as pas fait en hiver?
Ah bah je n'ai pas eu l'idée. Voilà,
donc, ah bah fais-le demain, commence demain, fais-nous une journée de ramadan demain. Puis
alors, voilà. Justement, est-ce que, justement, parce que j'ai entendu qu'on peut payer,
Non, on ne peut pas payer si on peut jeûner. Celui qui paye, c'est parce qu'il ne pourra pas et ne peut pas. Jeûner,
c'est la règle. Hein.
Oui, bien sûr, c'est la règle. La règle, c'est que celui qui peut jeûner doit jeûner, rattraper en jeûnant. Dieu, il a pas dit. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ فَفِدْيَةٌ مِنْ طَعَامٍ. Il a dit فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ. Ça veut dire que vous devez rattraper un autre jour.
Ou إطعام المسكين, non?
Là, يا أخي. سمعتني, qu'est-ce que je viens de dire?
C'est bon.
Qui est concerné par le fait de nourrir un pauvre? C'est celui qui ne peut jamais rattraper. C'est-à-dire qu'il y a une maladie incurable ou un état de santé incurable qui va l'empêcher définitivement de jeûner. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه أي الذين لا يتحملون الصيام أبدا أبدا. يعني هو إما كبير السن, soit il est vieux, très vieux, il peut pas jeûner, soit il a atteint une maladie telle que le diabète type insulino-dépendant par exemple, et celui-là, eh bien, il peut pas jeûner, il a une maladie incurable. عنده مرض مزمن, مرض مزمن معضل لا يرجو برؤه, يعني dont on n'espère pas la guérison. Voilà là ce qu'on appelle la maladie qui autorise de verser la fidya. alors que celui qui a une maladie temporaire, il attend sa guérison, et quand il est guéri, il rattrape.
Justement, cher, j'ai une deuxième question par rapport à ma femme. Elle est actuellement, donc elle est enceinte. Mmh. Et sur les premiers mois, donc deux mois de vers le Ramadan, elle sera au troisième mois. Mmh. Et elle n'arrête pas de vomir et tout.
Ouais, les nausées, les fameuses nausées des de grossesse, oui. Début de grossesse. Alors, Khoyal Karim, Zmane. Moi, je suis pas médecin. Donc, normalement, la réponse, c'est au médecin de trancher sur la question des femmes enceintes. Donc, arrêtez de m'appeler pour me dire je suis enceinte ou ma femme est enceinte pour me dire est-ce qu'elle doit jeûner ou pas ou est-ce que je dois jeûner ou pas. Non, c'est au médecin de trancher. Maintenant, je pense qu'une femme en début de grossesse a suffisamment de graisse et suffisamment de moyens vitaux pour son bébé qui est encore à l'état d'embryon microscopique. Il n'a pas besoin de quantités gigantesques de nourriture pour pouvoir grossir normalement dans le ventre de sa mère. Mais je dis ça, mais sans connaissance. C'est-à-dire, je ne suis pas compétent en la matière. Mais je dis que d'après ce que j'ai entendu des médecins, une femme en début de grossesse peut jeûner. Une femme, effectivement, à partir d'un certain mois, sixième mois, septième mois, etc., et jusqu'à la naissance, bien sûr, jusqu'à l'accouchement, ne peut pas jeûner. Bien sûr, elle ne va pas jeûner.
Hein? Quel que soit le médecin, pas forcément musulman.
Alors, quand c'est un non-musulman, il est possible d'avoir un diagnostic d'un non-musulman. Mais quand vous avez un diagnostic du non-musulman qui vous dit, madame, il faut pas jeûner, il faut lui demander une autre question. Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi je ne peux pas jeûner? Expliquez-moi scientifiquement et d'un point de vue médical, pourquoi je ne peux pas jeûner? Quels sont les risques avérés? Pas les risques supposés ou par prudence ou non. Vous dites-moi, monsieur le docteur, qu'est-ce que je risque si je jeûne? Eh bien, à ce moment-là, vous prendrez vous-même une décision selon ce qu'il vous aura dit, donné comme argument. Si ces arguments sont convaincants, il vous dit, madame, attention, vous risquez ça, votre bébé va mourir, une fausse couche, maintenant. À ce moment-là, bien sûr, vous allez suivre son avis. Mais s'il vous dit, non, c'est juste par précaution, on sait jamais, de toute façon, le ramadan, ça sert à rien, pourquoi vous jeûnez d'abord? C'est absurde de se priver de manger et de boire. Alors, si ces arguments, c'est simplement parce qu'il réfute les convictions de l'islam, parce qu'il n'est pas musulman, vous n'allez pas prendre en compte ces arguments, bien sûr. Hein, d'accord, vous comprenez. Il faut d'abord interroger le médecin sur ses motifs, sur les raisons dans lesquelles il vous interdit de jeûner. Posez-lui. Ne dites pas mon médecin m'a interdit de jeûner. Il dit pourquoi il vous a interdit de jeûner. Il doit vous expliquer pourquoi.
D'accord, très bien. Merci.
Je vous en prie.
Merci.
Bon, Mohamed, merci pour ces questions, de son qui seront largement reposées pendant le mois de Ramadan. Mais c'est vrai que, par exemple, la question sur la grossesse, elle revient en permanence, et c'est quelque chose, d'important, et tout le monde veut la confirmation de l'imam, en fait.
Effectivement. Donc, je confirme, effectivement, qu'on aura un rendez-vous avec Philippe, Inch'Allah, pendant le Ramadan. Donc, notamment, probablement, en fin de journée. Donc, vous pourrez, effectivement, pendant le Ramadan, nous suivre et continuer à nous accompagner toutes les soirées du Ramadan pour vivre spirituellement ce mois béni, essayer de le vivre dans la foi et la spiritualité, Inch'Allah.
Alors, Myriam nous appelle de Créteil. Bienvenue, Myriam.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Myriam.
Alors, je vous appelle pour poser une question concernant mes deux enfants.
Bismillah,
par rapport au Ramadan.
Allez-y, ils ont quel âge, les enfants?
Alors, j'ai ma fille qui a 18 ans actuellement.
18 ans.
18 et...
Excusez-moi, mettez bien, parlez bien dans le combiné pour qu'on puisse entendre, parce qu'il y a des coupures.
D'accord. Attendez, je vais fermer juste des portes, comme ça.
Donc, vous avez une fille de 18 ans et...
S'il vous plaît. Oui, je vais vous poser une question par rapport au Ramadan de l'année dernière.
Oui, alors, on a trois minutes, Myriam, donc il faut aller vite.
D'accord, trois minutes. Ok, je vais faire vite. Alors, j'ai ma fille qui a passé les épreuves l'année dernière. Elle était en première. Là, elle passe le bac cette année. Donc, elle m'a demandé par rapport aux épreuves qu'elle va manger.
Oui.
Elle m'a carrément, clairement dit qu'elle ne pourra pas passer les épreuves parce qu'elle a besoin de manger pour être,
pour passer ses examens, c'est ça?
Je suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces arguments bidons.
Tout à fait. Moi, c'est ce que je...
Alors, je vous explique. Moi, je préfère, donner mes arguments. Après, vous direz ce que vous voulez à votre fille. D'accord. Le ramadan, c'est toute la journée. Quand on mange le matin.
La porte, s'il te plaît.
Allô? Oui, vous êtes avec nous?
Alors, continue de répondre à Myriam.
Alors, je disais que, en général, les épreuves, ça se passe le matin à 8h. On est bien d'accord, Philippe? À 8h, je suis désolé, je viens de prendre mon sahur, c'est-à-dire le fameux repas du matin, à 4h du matin. Donc, ça fait à peine 4h que j'ai arrêté de manger. Vous n'allez pas me dire qu'après 4h de rupture le matin, alors que j'ai pris un bon repas le matin, j'ai déjà faim, j'ai déjà soif, je suis déjà assoiffé dans un état de déshydratation. C'est complètement absurde de me raconter ça. Par contre, effectivement, si vous me dites que l'épreuve, c'est le soir, à 6h du soir, au moment où est-ce qu'effectivement mon corps est complètement déshydraté et qu'il fait très chaud, etc. Et que...
Les derniers jours qu'on a vécu là.
Mais ça n'existe pas le bac, Philippe. Moi, d'après ce que je sais, c'est le matin. On est bien d'accord. Il y a pas d'examen le soir à 18h.
C'est pas à 18h en tout cas. Il y a pas d'épreuve à 18h.
Comment vous dites, madame?
Je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je veux avec vous, parce que c'est ce que moi je les réveille de toute façon tous les jours pour manger. Je leur dis de bien manger, comme ça ils sont bien, ils attaquent bien leur journée.
Ouais, et ils n'ont pas besoin d'une collation à 8h pour débuter le Ramadan, voilà. Les examens. Donc pourquoi casser le Ramadan? Moi je dis à toute personne qui a une activité professionnelle ou estudiantine. En l'occurrence, comme le cas de votre fille, madame, c'est que elle ne doit rompre le jeûne que seulement si elle ressent des vertiges ou elle ressent une faiblesse qui va l'empêcher de terminer ou de réaliser ce pourquoi elle a été missionnée, c'est-à-dire un étudiant de réussir ses examens, un travailleur qui travaille, je sais pas moi, sur des chantiers au soleil, effectivement, ne pourra pas terminer son travail en fin de journée s'il est en état de jeûne, aussi un footballeur qui commence un match de 90 minutes, voire même avec des prolongations parfois, et donc il a besoin de se déshydrater tout au long du match, effectivement. Mais ce que je dis à ces personnes-là, et je leur dis à tous, l'obligation de commencer la journée de jeûne. Donc de dire à votre fille, commence le jeûne. Et si pendant l'examen, tu es dans un état de déshydratation, où tu ressens des vertiges, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, qui évoquait des vertiges sur son escabeau, ou un malaise quelconque, il doit impérativement rompre le jeûne, casser le jeûne et manger et boire tout de suite. Donc avoir au moins un morceau de sucre dans la poche, un bonbon, je sais pas, un morceau de pain et une bouteille d'eau. Et si ça se passe mal, elle casse. Voilà.
Bon, merci Myriam pour votre question. On est rentré dans le mois de Chaban, ça y est.
C'est ça, Chaban. C'est
fait. Donc ça veut dire que maintenant on sait quand est-ce que le 29 Chaban.
Oui, donc probablement on a le Ramadan le 16.
Non mais 29, c'est-à-dire que c'est la nuit du doute.
Le 29, c'est le lundi soir.
Donc c'est bien
le lundi soir,
ce sera bien donc le lundi qui aura lieu la
nuit du doute, effectivement, ouais. Et on va donc savoir si on jeûne mardi ou mercredi.
Voilà, c'est lundi qu'on saura officiellement et qu'on aura le communiqué.
Et ça sera probablement mercredi.
Bien. Merci d'avoir été avec nous, Imam Abdelali. On vous retrouve la semaine prochaine si vous êtes âgé de 6 à 13 ans et que vous voulez raconter l'histoire des prophètes pendant le mois du Ramadan. Vous êtes bienvenue pour nous rejoindre en studio. Vous appelez l'imam sur le numéro qu'il vous communique.
06 29 25 35 00. Je répète, le 06 29 25 35 00. C'est aussi le numéro pour le Hajj de cette année, pour les inscriptions du Hajj avec moi, Inch'Allah, en ma compagnie au mois d'août prochain, ou pour déléguer une personne qui pourrait faire le Hajj pour une personne malade ou décédée. Ça aussi, ça peut se faire en ce qu'on appelle Hajj el-Badal au 06 29 25 35 00. Assalamu alaikum.
Voilà, dans un instant, Maître Serhan est avec nous.
C'était l'Islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Sur Beurre FM. Sur Beurre FM. Sur Beurre FM.